tourne vers notre dernier intervenant. Signalant que s'il y a eu des questions écrites qui viennent du public, c'est le moment de les récolter et de me les transmettre, et on va essayer d'en traiter quelques-unes. Yacoub Mahi, vous êtes aussi théologien. Est-ce que vous avez eu une expérience personnelle, des contacts à propos du problème de ces jeunes qui partent là-bas?
Par la grâce de Dieu, je dirais que l'expérience, c'est l'inquiétude que porte un citoyen à l'égard de ses concitoyens quand il observe, il constate le mal-être de famille et le départ de jeunes citoyens belges, bien sûr de confession musulmane ici, qui s'en vont en Syrie, et s'impliquer dans un conflit, dans une lutte. Peut-être pour être la conscience éveillée de l'opprimé au départ, mais ils sont nourris par quelque chose de noble, c'est-à-dire de soutenir la résistance d'un peuple, être cette conscience éveillée de l'opprimé, mais en même temps, ils sont quelque part aussi victimes d'une manipulation et politicienne et religieuse aussi. Alors si vous pouvez me permettre, je suis inquiet d'entendre parfois des propos qui me semblent un peu simplistes, une analyse à sens unique, une polarisation sur ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, de manière à ce que, c'est vrai, les États-Unis, ce totalitarisme d'une puissance comme celle des États-Unis qui a orchestré un coup d'État le 11 septembre 2001, parce que je ne suis pas dans cette théorie de... Je ne suis pas dans cette vision de remettre tout en question parce qu'il faut le remettre en question, mais il faut s'interroger, il faut rester libre dans la pensée. Vous savez, les États-Unis ont la main mise sur le Moyen-Orient, le monde musulman en particulier, avec des valets qui sont les dirigeants des pays arabes, l'Arabie saoudite, le Qatar. Mais en même temps, on a aussi des intellocrates, des imams, des chers, des séyyids qui sont aussi... excusez-moi, simpliste et caricaturaux dans leur analyse, leur approche, et qui sont aussi des valets de cette pensée-là, sur un autre volet, sur un autre plan. Madame le professeur Morelli disait tout à l'heure que Bachar el-Assad ou la Syrie est un pays infréquentable. À un moment donné, la Syrie devient un pays fréquentable. Et aujourd'hui, elle redevient infréquentable. Moi, je constate que cette monarchie républicaine, parce que de père en fils c'est un pouvoir héréditaire qui m'inquiète, a massacré pendant des années, je n'oublie pas les massacres des années 80, Hama, je n'oublie pas ce qui s'est passé avec le père, Hassel, et le fils aujourd'hui est en train de reproduire quelque part cette mainmise, cette pensée unique d'un pouvoir qui, même le guide de Hezbollah disait à un moment donné, effectivement la réforme est nécessaire en Syrie. C'est-à-dire que ce soulèvement d'un peuple était quelque part légitime au départ. Ce qu'on en a fait, ce que c'est devenu après, ça c'est autre chose. Mais au départ, c'était un appel à une réforme nécessaire peut-être, mais de là à dire que c'est une démocratie dans la région, excusez-moi, on a une pseudo-démocratie au Maroc, on a une pseudo-démocratie en Tunisie, on l'a eu pendant des années... Elle a été applaudie par l'Europe et par les États-Unis alors qu'on savait que c'était une prison gigantesque pour le peuple tunisien. C'est la même chose aujourd'hui dans des pays comme que ce soit le Maroc, que ce soit Qatar ou l'Arabie saoudite. Et c'est la même chose aujourd'hui en Syrie. Moi, je ne suis pas ici pour dire effectivement ce qui se passe en Syrie. C'est dramatique, c'est très grave. Et je dénonce l'instrumentalisation du conflit syrien pour un conflit religieux entre musulmans chiites et sunnites. Hein, ce sont les chiites alawites contre les sunnites tekfiristes ou les tekfiristes sunnites contre les chiites alawites.
Donc vous refusez l'idée qu'en Syrie c'est une guerre de religion?
Catégoriquement, on veut mener vers une guerre de religion. On laisse entendre que c'est cela. Mais il y a des intérêts géostratégiques derrière tout cela. Il y a des calculs, des agendas, que ce soit l'Iran, et que ce soit l'Arabie Saoudite ou que ce soit le Qatar, c'est exactement la même chose qui se passe avec le Hezbollah aujourd'hui, quand Nasrallah disait à un moment donné, je n'interviens pas à l'étranger. Mais là, il intervient parce qu'il y a des calculs qui nous dépassent. Avec le soutien que je porte à Hezbollah pour son combat perpétuel contre le procureur du terrorisme international, l'État d'Israël. Ça, c'est clair. Cette question syrienne nous inquiète quand au départ des jeunes, mais il faut être pointu dans notre analyse, ne pas être simpliste, ne pas tomber dans les les propos des médias mensonges, mais en même temps s'interroger, se poser des questions pertinentes, tant à l'égard de nos politiciens belges, sur le plan local, mais en même temps sur ce qui se passe sur la scène internationale. Ce n'est pas parce qu'un pays, effectivement, qui est dans le collimateur aujourd'hui, parce que le Hezbollah, qui était qui est un rempart contre ce massacre du sionisme de l'État d'Israël aujourd'hui, qui entretient l'apartheid. Je rappelle que les idéaux ont été portés par plusieurs. Ce sont les Espagnols et les Anglais qui ont massacré les Amérindiens sous l'idéal hors de l'Église, point de salut. C'est le sionisme israélien qui massacre et qui entreprend cette entreprise génocidaire contre le peuple palestinien aujourd'hui, au nom du mythe de la terre promise et du peuple élu. Et donc, c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui au nom de préserver une identité spirituelle, que ça vienne de l'Arabie saoudite et du Qatar d'un côté, ou d'un autre axe, celui de l'Iran et de Hezbollah. Qui est-ce qui en paye le prix aujourd'hui? C'est le peuple syrien. Ce sont des innocents, des gens qui ont vécu en Syrie. On pouvait voir des chiites, des sunnites, des soufis, des salafis au sein de la mosquée Oréade à Damas, qui priaient ensemble derrière un même imam et qui avaient leur assise religieuse et spirituelle. Ça ne posait aucun problème. Et aujourd'hui, on nous sert cela en un plat de conflit religieux, spirituel entre les chiites et les sunnites, parce qu'effectivement, il y a des enjeux. Vous savez, le professeur Roger Garaudy, paix sur son âme, qui est décédé l'année dernière, avait prophétisé déjà il y a quelques années que l'axe qui serait le dernier rempart contre Israël, ce serait dans la région, et que la seule chose qui pouvait tenir fort, eh bien, c'était cet axe entre l'Iran, donc la Perse, la Chine, en passant bien sûr par ceux qui sont aussi quelque part le soutien de cette politique iranienne, qui est la Syrie, parce que c'était par la Syrie que peuvent passer les armes vers le Hezbollah pour pouvoir résister contre le terrorisme de l'État d'Israël. Eh bien, lorsqu'il disait ça à ce moment-là, on se posait des questions, mais comment? Aujourd'hui, effectivement, on voit, quand j'entends l'analyse qui est faite par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe dans la région, c'est vrai que les États-Unis, eh bien, ils ont massacré en Irak, 2003, ils ont continué à massacrer, ils soutiennent un soutien inconditionnel à l'État d'Israël de la part des États-Unis. Mais en même temps, moi je me pose la question des pays arabes et musulmans et du silence de mon pays, mon gouvernement, le soutien complice de la communauté internationale et principalement de l'Union européenne à cette politique-là qui massacre ce libéralisme du marché, qui est l'assassin des libertés dans les régions opprimées aujourd'hui du monde, principalement au Moyen-Orient, et en même temps, aujourd'hui, l'attitude de nos politiciens par rapport à ce qui se passe en Syrie. La Syrie n'était pas fréquentable, elle devient fréquentable à un moment donné, parce qu'une position contre ce qui se passe en Irak, et aujourd'hui elle devient non fréquentable. Moi je ne suis pas un pro Bachar el-Assad, loin de moi. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui vont dire que ceux qui font de la résistance en Syrie, ce sont des criminels. Excusez-moi, je pèse mes mots. Moi, je ne suis pas pour l'intervention des étrangers en Syrie. Quand j'ai entendu le décès de notre frère Abdurrahman Al-Ayyash, rahmatullah alayhi, paix sur son âme, qui est décédé, je me suis dit, effectivement, c'est un Syrien, un Belgo-Syrien ou Franco-Belgo-Syrien, qui est parti en Syrie pour défendre son pays contre la politique d'un État. C'est son droit. C'est un citoyen qui s'oppose à un régime. Je peux, moi, proposer une politique à un politicien de mon pays, alors que vous, en tant que citoyen belge, vous n'avez pas la même vision que moi. Mais c'est de la résistance, c'est de l'engagement, c'est de l'activité citoyenne, une citoyenneté participative, active, engagée, responsable. Mais à partir du moment où il y a des mercenaires qui viennent, soutenus par l'Iran et le Hezbollah, soutenus par l'Arabie saoudite et le Qatar, et qui sont envoyés de Tunisie, de Libye et d'autres, d'Égypte... Non, attendez, j'y viens. J'y viens. La Turquie. La Turquie qui est aujourd'hui dans cet axe ultra-libéral et qui se présente comme celle qui a la solution en tout dans la région. La Turquie, c'est de l'hypocrisie pure et simple aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Syrie. Même si la Turquie, sur le plan local, elle est intéressante quant à sa politique intérieure, elle a développé, elle est sortie de sa crise, c'est-à-dire de sa dette. La Turquie est un bailleur de fonds pour le Fonds monétaire international aujourd'hui. Le Fonds monétaire international, c'est une grande église qui a ses prêtres, ses pasteurs, ses théologiens, qui sont ceux qui activent la politique du fonds du libéralisme du marché aujourd'hui, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Eh bien, ce qui se passe dans la région, et quand nos politiciens les interpellent par rapport à ça, mais c'est deux poids, deux mesures. Lorsque notre ministre des Affaires étrangères laisse entendre dans des propos que ces jeunes qui sont partis en Syrie et qui reviendront, peut-être on érigera un jour, alors en leur mémoire, une statue ou quelque chose de la sorte, quelque chose de symbolique. Ça veut dire quoi? Le même ministre des Affaires extérieures, étrangères, est interpellé quant à des citoyens belges qui sont maltraités au Maroc, Ali Arras, et il n'intervient pas. Les familles l'interpellent et il ne réagit pas. Nos citoyens belges qui sont partis en Syrie, moi je dis que c'est un idéal noble pour qu'un jeune puisse être la conscience éveillée de l'opprimé. Maintenant, on a instrumentalisé la naïveté de certains jeunes dans un conflit religieux, qui prend une tournure d'un conflit religieux. Ces citoyens-là sont partis en âme et conscience libre, responsables, pour ceux qui sont majeurs en tout cas. Ce ne sont pas des gens déjà désœuvrés comme on a laissé croire.
Oui, je voulais dire justement, sur la Syrie, le débat qui ne sera pas possible de le terminer ce soir, mais c'est, à mon avis, intéressant d'avoir entendu les divers points de vue. Je pense d'ailleurs qu'on va pouvoir continuer la discussion un certain temps dans les couloirs. Je pense bien que chacun voudra répondre à ceci ou à cela, mais comme il y avait énormément d'intervenants, ce n'était pas évident, je vais vous demander de l'indulgence. Vous avez vu aussi le paquet de questions que j'ai reçues. Je ne sais pas comment vous feriez à ma place pour lire ça très vite, choisir quelques-unes, donner la réponse à tout le monde. Donc je pense que la solution la plus raisonnable, ça va être qu'on va les transmettre aux intervenants, de donner des réponses encore cette semaine sur les sites. Et je voudrais conclure en posant une question bien précise. Parce que vous avez parlé des jeunes qui partent là-bas. Par rapport aux raisons en Belgique qui leur donnent une frustration éventuellement, et le lien qu'on a fait avec les questions aujourd'hui, comment vous voyez cette situation?
Disons que les médias ont instrumentalisé la question pour surfer sur la vague de la peur et donc entretenir cette logique d'un antisémitisme islamophobe en Belgique en tout cas, en laissant croire que ces jeunes qui sont partis vont revenir et vont terroriser notre pays, notre société, nos concitoyens. C'est vrai qu'il faut être vigilant quand quelqu'un revient parce qu'il a été à un moment donné peut-être blessé parce qu'il a vu, mais je pense que le pays qui est décimé par une politique ingrate, aujourd'hui ces jeunes qui vont vers ce pays-là, il faut être très vigilant. Il faut comprendre le pourquoi. On n'a pas donné la parole à ces jeunes-là. On les a jugés de terroristes potentiels. On n'a jamais dit à un citoyen belge qui partait soutenir l'armée du Tsahal pendant des mois durant, tu es un terroriste potentiel pour notre pays. Et ça se fait en Belgique. Ça se fait en Belgique. Et je crois qu'on a un citoyen belge, pas en Belgique, combattre une injustice. Moi, je ne suis pas pour le départ des jeunes en Syrie pour combattre, parce que pour moi, ce n'est pas un jihad. C'est mon avis. Je suis contre cet avis des ulama mondiaux qui se sont organisés. Je ne sais pas qui leur a donné ce titre, mais en tout cas, qui se sont réunis en Égypte. Hein, encore une fois, l'Égypte. Cet espace qui aujourd'hui nous interpelle par rapport à cette politique, moi je dis c'est une grande messe de en tout cas principalement du mouvement des frères musulmans qui m'inquiète.
Peut-être mais il faudrait commencer par voir comment on fait pour nourrir les Égyptiens et diminuer le privilège, non?
Notamment, exactement. Mais en tout cas pour revenir à ça, ces jeunes qui sont partis, effectivement on est en train d'entretenir la logique de la peur. Pour camoufler parfois, faire de la diversion par rapport à ce qui se passe. Il y a des problèmes dans nos sociétés. Les problèmes de chômage, les problèmes d'insertion sociale, les problèmes politiques, les problèmes d'échange et de vivre ensemble sur le plan culturel. Tout ça, ce sont des problèmes que l'on vit au quotidien, qui engendrent la panique et la peur. On a trouvé un élément pour pouvoir surfer sur la vague de la peur et engendrer cette islamophobie grimpante dans notre société.
Donc, on lance un appel à l'unité et à la discussion.
Bien sûr. Et être vigilant. Attention, moi je ne condamne pas, je ne suis pas la justice pour condamner. Moi je constate, je peux ne pas partager, ne pas soutenir, mais je n'ai pas à condamner telle personne nous a demandé, moi pas à titre personnel, mais aux théologiens musulmans, aux imams, etc., de prendre position. L'exécutif a été interpellé. Ce n'est pas le rôle de l'exécutif de parler de ça, de prendre position pour ou contre. L'exécutif était une institution qui représente le temporel du culte musulman. Elle n'avait pas à se prononcer sur cette question. Le Conseil des théologiens,
on est en train de... Elle est où la séparation des sphères dans notre pays entre le public et le religieux? Elle est où? On a demandé aux théologiens de se prononcer. Mais les théologiens qui sont dans l'orbite des pouvoirs étrangers, le Maroc et la Turquie en particulier, avec la bénédiction de l'Arabie satanique, excusez-moi le terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande aux imams en Belgique de jouer le rôle d'une armée de la pensée, d'une police de la pensée? Eh bien ça, c'est inacceptable. En tant que théologien, je dénonce les exactions qui se passent là-bas. Et bien sûr, on est pour la paix dans cette région-là. La paix, c'est pas un conflit sunnite et chiite. On veut nous le présenter de la sorte. Moi, je ne suis pas pro-Bachar, mais je ne suis pas non plus pour soutenir le massacre qui se passe là-bas. Les citoyens syriens sont partis, c'est leur droit parce qu'ils sont syriens, mais de là encourager cette vague et de dire il faut soutenir telle résistance, etc., etc., je pense qu'aujourd'hui, il y a des forces vives de l'humanité qui sont en train de mourir par manque de soins, manque de vivres, manque de médicaments, manque de couverture, manque de moyens fondamentaux pour survivre en Syrie, et c'est à eux qu'il faut, je pense, penser.
Merci énormément. Je veux en une minute remercier chacun des intervenants qui sont venus ici et qui ont apporté, je pense, un éclairage qui se complète magnifiquement et qui nous permet de nous faire une bonne compréhension du problème. Je voudrais juste, comme beaucoup d'intervenants tous en fait l'ont dit, lancer un appel à l'unité, toujours réfléchir. Qui veut nous diviser? Quels sont les intérêts qu'on veut nous cacher? Comment ça se fait que pendant la question riche-pauvre, on ne la résout pas, on l'aggrave, et en même temps, on nous appelle à nous battre les uns contre les autres? Je crois que si cette soirée a permis à chacun de se dire que c'est ça la question centrale, qu'il ne faut absolument pas se laisser diviser, alors la soirée aurait été utile. Je vous remercie, nos intervenants sont toujours à votre disposition.